Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Je reçois ce soir Julie Pichot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez enquêté pendant 7 mois dans les quartiers nord de Marseille où des jeunes garçons d'à peine 20 ans sont devenus des tueurs à gages, prêts à tuer parfois pour 15 000 euros. Votre documentaire est diffusé ce soir à 23h sur France 2 dans le cadre de compléments d'enquête et propose donc une vraie plongée chez les narco-criminels au cœur de deux mafias qui règnent sans partage sur la ville et qui règlent leurs différends à coups de Kalachnikov. Alors déjà, comment est-ce que vous avez réussi à travailler et à intégrer ces réseaux de narcotrafiquants? Vous avez utilisé des fixeurs, en gros, comme sur les terrains de guerre.
Et oui, c'est grâce à eux, grâce à ces intermédiaires qu'on a réussi à pénétrer dans ces quartiers nord, à s'approcher de jeunes tueurs à gages, à s'approcher de points de deal, de trafic de stupes. Ouais. En fait, sans eux, on ne fait rien. On n'est pas connu dans ces quartiers. Donc, on est obligé d'avoir des gens qui, eux, connaissent le terrain, qui, eux, ont la confiance des autres. Et en fait, tout notre travail à nous, c'est d'être en confiance avec eux, de créer un lien de confiance pour pouvoir rentrer dans ces territoires, en fait.
Et vous ne le faites pas en caméra cachée?
On a décidé de ne pas le faire en caméra cachée.
Pourquoi?
Je crois que c'était important. Pour être honnête, souvent Marseille a été filmée en caméra cachée. Nous, on s'est toujours présenté comme journaliste pour complément d'enquête et on a toujours été honnête dans notre démarche.
Alors, dans le détail, il y a deux gangs qui s'affrontent à Marseille, Yoda et DZ Mafia. En gros, on peut dire que DZ Mafia contrôle 12 des principales cités des quartiers nord. Yoda, 10 cités, y compris dans le centre-ville de Marseille. C'est d'abord une bataille de territoire pour prendre le contrôle de points de deal.
Exactement. Les points de deal, donc ça rapporterait 1 million d'euros par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme.
Oui,
la DZ Mafia peut vouloir prendre des points de deal à Yoda, qui veut prendre des points de deal à la DZ Mafia, et tout ça, ça crée des morts en fait, ce qu'on appelle les narcomicides.
Exactement. Et c'est vraiment ce qu'on apprend dans votre documentaire, c'est que des ados armés se tirent dessus moyennant finances. C'était inimaginable il y a quelques années. Il y a eu une accélération de ce phénomène-là. Comment est-ce que vous l'expliquez et qu'est-ce que vous avez constaté?
Il y a une accélération de ce phénomène et puis surtout, on n'est plus du tout sur des modèles de mafia à l'ancienne, en fait.
C'est ça.
Donc là, on vient recruter des jeunes qui sont aussi fascinés par les réseaux sociaux, qui sont aussi fascinés par l'argent.
On va en parler. Mm-hmm.
Facile, en fait.
Il y a Mohamed qui vous dit ça. Il dit, il n'y a plus de conscience du bien et du mal chez ces jeunes-là.
En tout cas, moi, ce que j'ai constaté...
Qu'est-ce que vous avez vu?
Il n'y a plus de limite de la mort. Voilà, on est dans une culture judéo-chrétienne où il y a cette limite de la mort. Il n'y a plus la limite de la mort chez eux. On est capable de tout pour gagner de l'argent.
Je vous propose d'écouter un extrait de votre documentaire. Vous avez interrogé Kylian et il raconte le processus par lequel les commanditaires font une sorte de lavage de cerveau. On écoute.
Nous l'appellerons Kylian. Il dit qu'il a tué pour la première fois quand il avait 17 ans. Une semaine avant d'exécuter son contrat, il a été isolé à l'écart de la ville, conditionné. C'est ce qu'on appelle la coupure.
On dirait la vie, c'était un film. On te ramène tout à ta disposition. Même des fois, ils te prennent des villas. Ils t'achètent un Play 5, ils te ramènent des gadjis.
Des gadjis, c'est des filles?
Ouais, des filles. Tu dois patienter, mais tu ne penses pas trop au risque parce qu'il rentre dans ta tête.
Il dit encore être mineur quand le réseau lui offre 30 000 euros pour tuer. Pour chaque contrat, il aurait obéi à des instructions.
Il regrette.
Il regrette aujourd'hui, oui.
Il le vit mal, il dit qu'il a des sueurs froides.
Oui, enfin, il regrette son acte, bien sûr.
Ouais,
il regrette son acte et je pense que c'est ce qui l'a poussé aussi à témoigner pour expliquer ses regrets, expliquer aux jeunes d'aujourd'hui qui pourraient passer à l'acte.
Il ne se victimise pas, pour que les gens comprennent. Il explique en fait comment des commanditaires, et c'est peut-être intéressant de le raconter, qui sont bien souvent à Dubaï, l'appellent au téléphone et lui disent « c'est pas si grave ».
Alors, il y a une juge des enfants qu'on a interviewée dans le documentaire qui s'appelle Laurence Belon, qui met un mot dessus, c'est l'emprise. Voilà, pour elle, c'est un phénomène d'emprise.
Comme pour la prostitution.
Comme pour la prostitution, comme pour les Roms, pour reprendre ses propos.
D'accord.
Et elle va même plus loin, elle parle de traite des humains. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de travailler. Le procureur de la République de Marseille le dit aussi. Donc, c'est-à-dire, voilà, conditionner des jeunes. Évidemment, c'est toujours plus facile de conditionner des jeunes qui ne sont pas encore tout à fait formés, en leur disant, voilà, fais ça, nous on l'a fait, tu ne te feras pas attraper.
C'est pas grave. C'est ça qu'on leur dit aussi. On en a fait plusieurs. Nous, on a exécuté des contrats. Et au fond, tu ne prends pas de risque. Parce que ce qui est intéressant aussi de raconter, et qui est vraiment très bien montré dans le film, c'est que les réseaux ont un mode opératoire précis. Ce n'est pas lui tout seul qui arrive et qui met en place l'exécution. Peut-être que vous pouvez nous raconter.
Il y a toujours un pilote, il y a toujours une personne qui va repérer la victime, qui va faire des photos, qui va repérer si elle est en bas d'un bloc, si elle est dans la rue, à quel feu rouge elle s'arrête, à quelle heure. Il y a donc ce qu'on appelle le chasseur, il y a le donneur de go qui va dire top départ, c'est parti, tu peux y aller. Il y a celui qui va brûler les vêtements, brûler les armes, celui qui va cacher tout après. Donc c'est toujours un travail d'équipe, mais des gens qui ne se connaissent pas au départ. Hein. On forme une équipe au dernier moment. Et donc, le fait qu'eux ne se connaissent pas, ça évite évidemment que les informations se passent.
Et puis, il y a ceux qui arrivent après, qui viennent nettoyer.
Et qui viennent nettoyer, oui, tout à fait, les traces.
Les traces. Hein. Vous avez rapidement parlé des réseaux sociaux. C'est important de raconter aussi que parfois, c'est Mathéo, 18 ans, hein, qui travaille, qui met en scène ce qu'il vient de faire sur les réseaux sociaux. Alors là, on ne comprend pas, parce qu'il s'accuse. Pourquoi les réseaux sociaux et comment est-ce qu'il travaille?
Alors, en fait, c'est une des méthodes des réseaux. Hein. Nous, on a été sur les réseaux de la DZ Mafia, de Yoda, et on a vu qu'en fait, on met en scène, alors soit pour faire peur à l'autre, au camp adverse, soit pour se vanter de ses méfaits, je pense toujours en n'ayant pas conscience qu'on a tué, et pour aussi, je pense, se construire une aura criminelle chez certains.
Certains recrutent sur les réseaux sociaux.
Ah, certains recrutent sur les réseaux sociaux.
Ouais. Comment ça se passe?
Nous, on a fait le test. C'est hélas assez simple. Allez-y. Alors, on n'a pas été jusqu'au bout de la démonstration, évidemment, on s'est arrêté à bout d'un moment. Mais on propose des contrats. Voilà, il y a une tête à éteindre, 15 000 euros. On se donne rendez-vous à la gare. Évidemment, quand on arrive à la gare de Marseille, il y a un intermédiaire qui vient en voiture prendre la personne. Et tout peut se faire très, très rapidement.
Mmh. Il y a des témoignages aussi sur les familles. Hein, dans l'affaire du 29 décembre 2021, je fais un peu le contexte, deux voitures sont retrouvées brûlées avec à l'intérieur trois corps carbonisés, dont celui de Brahim. Vassila, sa mère, avait essayé de détourner son fils de ses réseaux, de ses mauvaises fréquentations, on va le dire comme ça. Et elle dit, dès qu'il a grandi, je me suis sentie impuissante. Elle savait que, quelque part, que ça allait mal se terminer.
Et il y a beaucoup de familles dans les quartiers nord qui nous ont raconté ça, c'est-à-dire qui demandent de l'aide, en fait, qui voient ses enfants tomber, s'enfoncer dans le trafic, dans ces mauvaises fréquentations et qui essayent d'appeler parfois la police. Enfin, beaucoup nous ont dit, on préfère que nos enfants soient au commissariat que dehors. On préfère qu'ils soient en prison que dehors.
Ah oui, d'accord.
Mais on n'a pas d'aide. C'est aussi quand même des quartiers qu'il faut désenclaver.
Alors, votre documentaire et votre travail résonnent tristement avec l'actualité, avec ce qui se passe régulièrement à Marseille ces derniers jours. Une visite du président, le ministre de l'Intérieur, qui vient d'ailleurs d'annoncer qu'il y aura des cyberpatrouilles contre les narcotrafiquants qui recrutent sur Internet. C'est bien de le faire parce que c'est aussi là que ça se passe.
C'est aussi là que ça se passe, oui. Ça se passe là, ça se passe en prison.
Alors ça, c'est incroyable. Ça se passe en prison. C'est-à-dire qu'ils continuent à être commanditaires d'assassinats en prison.
Et ça nous a été confirmé par l'OCLO, par la PJ de Marseille, par l'interview qu'on fait en prison, par le procureur de la République. C'est-à-dire qu'une fois arrêté, en fait, tout se reconstitue en prison. Donc il y a des téléphones portables, vous savez, qui sont amenés par drone. L'administration pénitentiaire le sait, essaye de lutter contre ça. Et donc, on reconstitue ça et on peut commanditer des assassinats de prison.
La commission sénatoriale dit qu'on ne perd pas la guerre contre les narcotrafiquants. Qu'on est en train de perdre la guerre, pardon, contre les narcotrafiquants à Marseille. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi?
Moi, ce que j'ai constaté, c'est que avec les opérations PlaceNet notamment, on essaye de démanteler un réseau, ça fonctionne. Mmh. Il se reconstitue 100 mètres plus loin. Mmh. Voilà. Donc j'ai quand même l'impression d'une énorme puissance, une sorte d'hydre. Vous voyez cet animal où on lui coupe la tête et qui renaît toujours.
Et que vous ont dit les forces de police sur place?
Alors,
ils se sentent démunis? C'est comme souvent un problème de moyens?
Alors on nous a beaucoup parlé d'un problème de moyens, mais dans l'investigation, c'était précis. Voilà, dans l'investigation, les magistrats aussi.
C'est pas juste du bleu dans la rue?
Non. Non, c'est vraiment la filière investigation. Voilà. Donc, et les magistrats nous ont dit pareil, plus de moyens pour l'investigation, parce qu'à partir du moment où on commence à arrêter des personnes qui font un assassinat, l'idée, c'est justement de remonter au commanditaire. Mais quand il y a un assassinat deux jours après et qu'on n'a pas assez de moyens pour remonter la chaîne, on ne va pas plus haut. Et c'est là que ça bloque.
Quelle est la leçon que vous tirez de ce travail journalistique que vous avez fait, ce travail d'investigation pendant 7 mois au cœur des quartiers nord de Marseille?
Je ne sais pas s'il y a des leçons à retirer, mais j'espère qu'on apporte un éclairage sur cette extrême violence. On a choisi de la montrer, on a choisi de montrer des images dures. Oui, mais parce qu'elles existent, en fait. Donc, on ne peut pas passer à côté. Je sais que certaines choses sont très violentes, mais ça existe et il faut voir cette réalité en face. Moi, je ne me doutais pas que c'était aussi violent.
C'est vrai?
Non.
Est-ce que vous doutiez qu'il y avait autant de distance de ces jeunes-là vis-à-vis de la mort? Vous en avez parlé deux fois au cours de l'interview. Est-ce que c'est ça qui vous a le plus surpris? C'est-à-dire le fait de se dire, bon, bah oui, au fond, je suis passé à l'acte, j'ai exécuté un contrat, j'ai pris de l'argent, des gadgets, comme il le disait dans le témoignage tout à l'heure.
Oui, le rapport à la mort, et en même temps, c'est des jeunes qui ont conscience qu'eux risquent soit la mort, soit 25 ans de prison. Mais ce rapport à la mort, et puis à l'argent, quoi, c'est-à-dire quand même toujours plus d'argent.
Est-ce que Marseille peut devenir l'équivalent de territoire en Amérique du Sud qu'on connaît, dans lesquels il y a des narcotrafiquants depuis des années, la Colombie, pour ne pas la nommer par exemple. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer à Marseille?
Alors nous, on se base sur des faits. On a consulté une note confidentielle de l'OCLO qui s'interroge à ce sujet-là et qui s'alarme. Ouais.
Merci beaucoup. C'est à voir ce soir à 23h sur France 2. Effectivement, c'est violent, mais j'ai rarement vu des images comme celle-ci filmées d'aussi près avec des gens qui sont en première ligne sur ce réseau-là, sur ces réseaux-là à Marseille. Merci beaucoup.
Merci.
D'être venu en parler. On poursuit avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir sur les questions de déficit, de dette, panique au sommet de l'État sur le sujet. À tout de suite. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.